Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette conférence en plein milieu du repas. Donc nous allons parler de la création de jeux vidéo sur l'axe du temps, mais pas que, pour vous faire découvrir un peu ce qui se passe dans les coulisses des studios de jeux. Pour ce faire, nous avons donc trois invités. Alors je vais commencer par Vanessa du studio Bishop qui nous vient du Canada. Je vous laisserai vous présenter après rapidement. Donc Michael qui est du studio Miklo qui a fait le jeu notamment Outzer. La licence Outzer qui est, je l'espère, connue de tous. Et William de Swing Swing Submarine qui était déjà l'année dernière et qui a fait notamment récemment le jeu Seasons After Fall, une histoire de renard. Donc voilà. Éventuellement, je vous laisse vous dire deux mots sur ce que vous faites en fait dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, quel est votre métier en fait? Bah, Vanessa.
Allô? En fait, désolée pour l'accent, je vais essayer de me faire comprendre. En fait, moi, je suis illustratrice pour les jeux vidéo, donc ça fait au-dessus de 5 ans que je travaille dans le domaine pour faire vraiment des illustrations, du design graphique pour la création de jeux vidéo en général.
Donc, moi, je suis Michael Péfer, le fondateur et directeur créatif de Miklo Studio. J'ai commencé en 2010 tout seul à faire mon premier jeu, j'ai tout fait. Et après, de fil en aiguille, l'équipe s'est agrandie et maintenant, je m'occupe surtout de... je suis en tant que producteur, donc je m'occupe de faire travailler les gens. Enfin, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le meilleur jeu possible à la fin et que tout le monde prenne du plaisir à développer le jeu. Voilà.
Et moi, c'est William, donc co-fondateur et game designer et plein d'autres choses à Swing Swing Submarine. On a commencé en 2009, je crois. On était deux avec un collègue, on venait d'Ubisoft et donc on voulait travailler ensemble sur nos propres jeux, donc on a commencé dans notre salon quoi. Et puis bon, on n'a pas grossi énormément depuis 8 ans, mais disons que sur notre dernier jeu on était 6 personnes dans la core team, donc dans l'équipe principale, et plus 6 externes, donc c'est le premier jeu qu'on voulait faire, Seasons After Fall, et on a réussi à le faire après 7-8 ans de travail. Alors on a fait d'autres jeux entre temps, mais voilà, ça nous a pris du temps pour trouver les sous, pour trouver les bonnes idées. Je suis pas sûr qu'on les ait toutes trouvées d'ailleurs, mais le jeu est sorti et voilà.
Ok, donc ça nous amène tout de suite dans le sujet du combien de temps ça prend pour faire un jeu vidéo. Alors cette conférence, vous voyez-la comme quelque chose d'interactif, c'est-à-dire dans le pitch, il me semble. N'hésitez pas à intervenir, je vais régulièrement vous demander si vous avez des questions à poser à nos invités sur les métiers de jeux vidéo, sur la production de jeux vidéo. Je vais quand même commencer par une petite introduction. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais on fait tous les ans une Game Jam à l'occasion des Utopiales. Donc la Game Jam, ça consiste à produire un jeu vidéo en 48 heures, en théorie, à peu près. Donc c'est sur un week-end, des gens se rassemblent, se forment des équipes de 1 à 7 personnes. Et à la fin du week-end, il doit y avoir des jeux qui sont faits. Et ça nous pose la question du temps, de combien de temps il faut pour produire un jeu vidéo. Ben, on peut dire des fois, ouais, un week-end, ça peut suffire pour produire un jeu vidéo. Et je vais juste vous montrer sur l'écran, pour que vous voyez un peu le concept, ce qu'on montre aux jammers quand on les prépare à la Game Jam. Voilà, le cycle de vie d'un jeu vidéo, donc on est bien sur le temps. C'est quelque chose qui est très séquencé, alors c'est assez schématique, évidemment chaque studio peut avoir ses particularités, mais sur le principe il y a des grandes étapes qui sont diverses et variées et qui font intervenir des équipes différentes. Donc vous avez en premier en vert la pré-production, donc là où on réfléchit, on a l'idée du jeu, on essaye de le faire financer, on commence à réfléchir à ce que pourrait être le jeu. Ensuite on a une phase de prototypage, et vous voyez qu'il y a des petites flèches qui montrent qu'à cet endroit là on fait des itérations, c'est à dire qu'on ne peut pas d'emblée avoir une idée et puis se dire elle est géniale et on fonce et on a fini le jeu. Non, il faut prototyper, donc on fait des petits essais, on fait des exemples de prototypes, d'ailleurs tous, en tout cas William et Michael, vous avez des prototypes en cours si je ne me trompe pas. Vous pourrez nous parler de cette phase-là d'exploration qui peut prendre du temps là aussi. Ensuite, la phase d'alpha. Alors ce qu'on appelle alpha dans le jargon, c'est quand le jeu est presque fini, jouable, complet, et qu'on peut commencer à le faire tester pour de vrai et voilà. Qui est également une itération, c'est-à-dire qu'on corrige beaucoup de choses à ce moment-là. Ensuite, la bêta, c'est quand on le fait tester à des joueurs. Les finitions et le QA, donc l'assurance qualité, c'est le côté, on vérifie, on traque les derniers bugs et on essaie de terminer les derniers trucs qu'on n'a pas eu le temps de mettre avant. Et ensuite, le publishing, donc c'est le fait de l'éditer. Donc voilà, et ensuite bah, il est vendu, il est mis sur le marché et vous y jouez et vous aimez ça ou pas et voilà. Mais voilà, tout ça, ça prend pas mal de temps et c'est vrai que dans la plupart des cas, ça prend entre quelques mois et plutôt quelques années le plus souvent, avec des équipes de taille très variable et des budgets également très variables entre quelques centaines de milliers d'euros et quelques millions. Donc voilà. Et pour la petite histoire, au moment de la Game Jam, on leur conseille de tenir à peu près ce délai-là. Avec le même schéma, mais des délais beaucoup plus courts entre les différentes phases. Donc voilà. Dès que vous avez des questions, vous nous dites, vous levez la main et je vous passerai la parole. En attendant, sur cette histoire de combien de temps ça met à créer un jeu, donc tu as un peu initié le truc, William. De vos expériences, de combien de temps ça prend de créer un jeu? Donc peut-être Vanessa
En fait, comme vous l'avez dit, c'est vraiment très variable. Donc, ça peut passer de exactement un week-end à, comme nous, dans le fond, le Code Bishop. Moi, j'ai commencé avec eux au mois de juin cette année. Donc, je n'ai pas été là tout le temps du process, mais ils ont été là-dessus depuis 2014. Donc, ça, c'est pour un jeu seulement, en faisant rien d'autre au travers. Donc, c'est vraiment d'arrache-pied. Je viens de trouver le sens du micro. c'est vraiment un travail d'arrache-pied pendant des années. Mais on est cinq seulement. Donc, ça dépend vraiment au niveau des gens. Ça dépend aussi à quelle heure ils se lèvent le matin. Ça dépend aussi s'ils sont assidus. Mais je dirais que... En tout cas, à Québec, là, ça tourne autour d'un bon 2 à 5 ans pour créer un jeu vidéo indie.
Alors, si je ne me trompe pas, j'ai une image du jeu. Si tu peux en parler juste 2 secondes, parce que les gens ne connaissent peut-être pas. Dire ce que c'est exactement comme jeu.
Oui, en fait, Lightfall, c'est le premier jeu de la compagnie. Ils ont commencé tranquillement à produire le deuxième, donc soyez patients. Dans 5 ans, on s'en reparle. Dans le fond, Lightfall, c'est l'histoire d'un personnage qui est amnésique, qui se réveille des années plus tard dans un monde de noirceur. Donc, il n'y a aucune idée de ce qui se passe, il n'y a aucune idée de ce qu'il est en réalité. Puis, au long du jeu, dans le fond, il va trouver des artefacts qui, en même temps que le joueur, va nous faire découvrir c'est quoi son passé. On va amasser des pièces du puzzle. Puis, si vous voyez, en tout petit, au centre, là, il y a le personnage avec un petit cube. Dans le fond, le cube, c'est quelque chose qui est trouvé dès l'acte 1, qui va vraiment servir de plateforme. Parce que Lightfall, c'est un jeu de plateforme, donc à la Mario Bros, là, si on veut, gauche-droite. Mais c'est nous qui amène notre propre plateforme en spawnant un cube. Donc, c'est comme le côté là, un peu plus touché qu'on a trouvé pour... touché, ça veut rien dire. Le côté spécial du jeu. Donc, de vraiment pouvoir amener sa propre plateforme pour pouvoir avancer au travers de puzzles.
OK. Michael, toi, du coup, vous avez pas mal de jeux et derrière vous et devant vous. Donc, à la question, là, combien de temps pour faire un jeu, que répondrais-tu?
Ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de règles précises. Le temps qu'on met à faire un jeu, c'est le temps qu'on veut bien se donner. Donc, c'est pour ça, nous, on travaille sur plusieurs tailles de projets. Donc, on a toujours un projet assez long qui va durer à peu près 1 an, plus ou moins, et d'autres petits projets à côté. Tout simplement travailler tout le temps sur le même projet très longtemps, je trouve que c'est assez fatigant créativement et puis même physiquement. Et nous, avoir des plus petits projets à côté, ça nous permet de voir autre chose, de se remotiver, d'avoir aussi des projets qui sortent régulièrement. Et selon notre objectif, on se donne... on va se dire celui-là va faire 1 an, celui-là va faire 3 mois. Des fois, alors, par exemple, Outer Chronicles, ce qu'on voit, on s'est donné un défi. Parce que l'auteur il m'a toujours dit pourquoi on fait pas un jeu en 3 mois, c'est possible de faire un jeu en 3 mois? Et moi, à chaque fois, je lui disais non, c'est pas possible. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, t'as toujours voulu faire un jeu en 3 mois, donc on va le faire. Et on a réussi. Et voilà, c'était un challenge.
C'était quel jeu, du coup, tu peux nous en parler?
De Outer Chronicles.
Oui, c'est Outer, c'était vraiment 3 mois de prod.
Non, alors oui, Outer
oui,
Omega, c'était
Chronicles, tu l'avais fait en 3 mois.
Ouais. Okay. C'est ça. Mais bon, il y a eu quand même un travail avant, puisqu'on on a créé un plugin pour Unity pour faire ce genre de jeu. Et une fois qu'on a eu l'outil, on a pu faire ce jeu en 3 mois, quoi. Mais c'était difficile. Le deuxième épisode, on a mis beaucoup plus de temps, mais c'est une autre histoire.
Et donc William, toi sur la production, alors j'ai retrouvé une image de Seasons, je vais pouvoir mettre le renard à l'écran.
Ouais. Voilà. Quand j'étais à Ubisoft, j'avais l'habitude de travailler sur des jeux qui faisaient quoi, 3 ans, quelque chose comme ça. Bon, après, je les ai jamais vus sortir, puisqu'il y en a qui ont été annulés en cours de route, t'en parleras peut-être plus tard, mais il y a beaucoup de jeux qui se commencent et qui ne se finissent jamais, on va dire. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait faire des jeux avec la Global Game Jam en 48 heures. Donc je me suis dit, mais pourquoi je m'embête à faire des jeux en 3 ans dans une grosse boîte? Je vais plutôt partir et faire mes jeux à moi. Bon, on les a pas fait en 48 heures. On en a fait d'autres en 48 heures pendant les jams. On en a fait des jeux Flash quand Flash fonctionnait encore en une semaine. Voilà. Mais comme disait Mickaël, c'est vraiment le temps qu'on veut se donner, quoi. Parce que ces jeux-là, on voulait les faire en une semaine. C'était vraiment une envie de les faire de façon courte. Et puis après, voilà, on a fait des prototypes de Seasons. Ça a pris quasiment un mois pour faire le prototype. Bon, c'était vraiment ignoble, quoi, mais ça a commencé. Et puis après, on a mis un an pour faire une démo qui n'était pas beaucoup plus intéressante. Et ensuite, on a mis 6 ans pour en travaillant sur d'autres projets en parallèle. Mais on peut dire que nos jeux ont pris le premier 6 mois, le deuxième un an et demi, et le troisième 2 ans et demi du renouveau, on va dire, jusqu'à la sortie. Mais en vrai, il a pris 6-7 ans. Ouais. Donc oui, enfin, c'est...
En fait, je pense, pour répondre à la question, maintenant c'est pour faire un jeu vidéo. En fait, faire un jeu vidéo, ça peut prendre un temps infini. On peut continuer à travailler sur un jeu pendant des années et des années, parce qu'on peut toujours affiner ou raffiner ou améliorer, enlever, ajouter des choses. Et en fait, on peut travailler. Moi, je pense qu'on peut travailler jusqu'à la fin de sa vie sur un jeu. Finalement, le plus difficile, c'est de savoir dire, ok, c'est bon, on arrête là.
Avec la limite quand même de la ressource financière, qui est il faut pouvoir se permettre de faire un jeu infiniment.
Ouais, il y a énormément de différentes ressources. Il y a la ressource financière et la ressource physique. Il y a aussi la vie de tous les jours et tout ça. Et donc, c'est beaucoup de choses à prendre en compte.
Ok, est-ce que vous y avez déjà des questions sur la production de jeux en général pour nos invités? Surtout, n'hésitez pas, soyez pas timide. Oui?
Peut-être un ratio. À ce moment-là, on disait qu'il y avait beaucoup de jeux qui ne sortaient pas. Pour combien de jeux qui ne sortent pas, un jeu sort à ce moment-là? Pour se rendre compte?
Personnellement, je ne sais pas. C'est vrai que c'est l'industrie du jeu vidéo, il faut le savoir, c'est une industrie qui tue beaucoup ses enfants. C'est-à-dire qu'un jeu, enfin une idée de jeu en tout cas, n'est vraiment pas forcément bonne. Et une fois qu'on la teste, on peut avoir tendance à l'interrompre avant. Et puis c'est vrai que, je ne sais pas, vous avez connu sans doute ça, mais les impératifs financiers souvent dans les studios peuvent entraîner l'arrêt du processus de création d'un jeu pour X ou Y raison. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des ratios, mais peut-être que vous avez d'expérience dans le domaine de projets arrêtés. Bah, toi, tu en avais chez Ubisoft, William.
Y en a qui disent souvent que c'est 90% des projets qui sont arrêtés. Après, on ne sait pas, hein, en vrai. Je sais juste que pour Swing Swing, on a sorti 3 jeux. 3 jeux commerciaux, je veux dire, et sinon on a fait, en termes de prototypage, on en a fait le double. Donc oui, il y a facilement 50% de nos jeux qui sont pas sortis. Ouais.
Nous, on n'a jamais annulé de jeu, en fait. Par contre, il y a un jeu qui s'appelle Sematory, sur lequel on est en production. On l'a commencé en 2015. Et en fait, on avait énormément de problèmes avec le prototype, on n'arrivait pas à voir ce qu'on voulait. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un prototype en 3 mois, on l'a laissé reposer, on a travaillé sur d'autres projets, et presque un an après, on a refait un prototype, essayé de régler le problème, parce qu'on a pu prendre du recul et voir ce qui allait pas et ce qui allait. Et en fait, ça, par contre, c'est vachement intéressant, parce que la plupart des studios travaillent toujours sur le même jeu jusqu'à ce qu'il soit fini. Et en fait, forcément, toute l'équipe se démotive à un moment donné, surtout s'il y a beaucoup de problèmes, s'il y a des choses qui ne marchent pas, si c'est pas marrant. Le fait justement de laisser le jeu de côté, le laisser reposer et après y penser, y réfléchir pendant un moment, ça nous a sauvés, puisque on a fait le deuxième prototype, on a réglé pas mal de problèmes, il y en avait encore, parce qu'après on a fait des salons. On voyait bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et début de l'année, on a refait un troisième prototype. Et là, on l'a montré et ça, on voyait que ça fonctionnait. Du coup, on a commencé la prod. Mais voilà, c'est une manière un peu différente.
Ouais,
mais...
plutôt, vous paralysez les prods et vous mettez les jeux en dormance quand, vous êtes, quand ils ne sont pas prêts. Quoi.
Ouais, c'est ça. On okay. recule pour mieux sauter.
Et là, et Vanessa qui nous a dit qu'elle était donc chez Bishop Games, mais qui a une expérience avant chez Frima, qui était un des plus gros studios canadiens. Pareil sur la ratio ou en tout cas les projets ouais. interrompus.
Ouais,
des expériences.
Ça me faisait penser à Frima en fait, parce que nous chez Frima on faisait beaucoup de sous-traitance, donc vraiment des projets à l'étranger. Donc veux pas que ce soit de ta faute ou pas, ben souvent le client peut décider de tirer la plug. Donc là, on se ramasse avec des jeux qu'on a travaillé vraiment longtemps puis finalement ils sont cannés. Donc je pourrais dire au moins aussi un bon 50% d'après moi. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça m'est arrivé souvent d'avoir connaissance de temps de travail finalement avant. On annule ça, on recommence autre chose. Là, mais c'est des choses qui arrivent. Je dirais, tu t'attaches pas, puis après ça, tu passes à l'autre. Là, tu redonnes ton 100%. Puis, c'est des choses qui arrivent.
Il y avait d'autres questions par là-bas? Oui, plusieurs. Ah ben là.
J'aimerais juste revenir sur cette idée de cycle de vie et de jeu perpétuellement en développement dont parlait Michael Peffer. Il serait intéressant de mentionner Dwarf Fortress, qui est, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu qui est toujours en développement, mais disponible. Et c'est juste deux frères dans leur coin qui vivent des dons de leurs fans. Donc, ça peut aussi se faire, en fait, le jeu en développement infini.
Tout à fait. Mais alors après, Dwarf Fortress est quand même passé du côté suffisamment fini pour être joué. Là, on parle effectivement de jeux qui sortent même pas, en fait, où il n'y a pas de version jouable à un moment donné, où en tout cas, il y a des prototypes et puis c'est tué avant. Mais oui, alors, et avec les nouveaux modèles de financement, notamment le financement participatif, y compris par des plateformes comme Patreon, donc qui ne sont pas sur du one-shot, mais sur du continu, il y a tout un tas de nouveaux types de projets qui peuvent fonctionner, notamment des projets en production permanente. Ça peut exister, effectivement.
Et puis même, nous, on parle surtout de jeux, on va dire, finis, où on ne revient pas trop dessus. Encore que, Michael, tu es revenu pas mal sur Outzer et tu as fait plusieurs versions, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant, le jeu dans l'industrie est vu comme un service et de plus en plus, on voit des jeux qui sont là pour durer, en fait. Et donc, ils vont mettre en place le premier jeu qui sortira, c'est en fait la version 1, mais ça va être un peu comme les jeux online. Mais bon, maintenant, c'est pas forcément online, mais le schéma du jeu online qui est perpétuellement en développement est en train de s'appliquer au jeu offline aussi. Ouais.
Moi, je trouve ça intéressant justement parce que tout à l'heure, je disais qu'on pouvait travailler un temps infini sur un jeu et vraiment un jeu comme Minecraft qui est un peu lancé cette tendance. En fait, c'est pareil, c'est un jeu qui a été amélioré pendant des années, des années, des années, qui a toujours des mises à jour. Et aujourd'hui, il y a... Voilà, c'est un peu au-delà du jeu game as a service. C'est que aujourd'hui, on a des joueurs qui ont envie de s'impliquer dans un jeu qui va leur plaire, qui ont envie de donner leur retour, qui ont envie que les développeurs prennent en compte leur retour pour qu'ils aient un peu le jeu de leur rêve. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que finalement, le développement, bien sûr, c'est le développeur qui choisit où va le jeu, mais la contribution des joueurs façonne énormément le jeu. Quoi.
Alors, du coup, c'est rendu où le micro
Du coup, c'est un peu en parallèle avec cette question... avec le développement justement de ces nouvelles formes de financement et notamment l'early access, je voulais savoir ce que vous pensiez des jeux qui sortent très tôt en alpha, en early access, que souvent sont très intéressants, que beaucoup de joueurs achètent, mais finalement qui s'arrêtent là. On y a eu plusieurs exemples et il n'y a pas d'évolution et finalement le projet a abandonné alors qu'il y a eu quand même un financement assez important.
Alors c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille, hein. On peut produire des jeux infiniment, à l'infini grâce au soutien de la communauté. Évidemment, il peut y avoir des cas où ça se passe pas forcément bien. Alors je sais pas ce que tu appelles un financement suffisant, mais c'est vrai que le grand public se rend rarement compte en fait du financement nécessaire pour produire un jeu. Et des fois, ce qui peut sembler être une bonne opération, notamment sur du Kickstarter ou des choses comme ça, finalement on n'est qu'un pourcentage très faible du coût de production des jeux. Ça arrive, hein. Ça
arrive à des milliards.
Oui, non, mais bien sûr, oui, tout à fait, mais il y a forcément des contre-exemples, des expériences là-dessus sur cette problématique là
sur le financement participatif. En fait, nous on s'est jamais vraiment intéressé. parce que tout simplement parce que ça demande énormément de travail, d'investissement. Faut au moins une personne à temps plein. Et comment dire? Et en plus, là, au cours des années, il y a eu énormément de scams, de projets qui sont un peu partis en sucette, où il y a eu des mecs qui sont partis avec la caisse aux îles Caïmans. Enfin, moi, je veux bien qu'on me donne 100 000 euros et je disparais, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc on n'a jamais été là-dedans. Et en plus, aujourd'hui, Kickstarter, tout ça, les financements sont beaucoup moins gros qu'il y a quelques années. Et du coup... je veux dire, lever 10 000 ou 20 000 euros pour un jeu aujourd'hui, c'est juste le prix pour faire la campagne Kickstarter, quoi. Donc,
on n'en a pas fait non plus, mais justement pour ce que tu dis, c'est-à-dire que moi j'arrive pas à faire payer quelqu'un pour un truc qui n'est pas fini, et je sais que ça peut être une manière de développer un jeu, mais c'est vrai que quand, comme ce qu'on dit, comme un jeu ça peut s'arrêter à tout moment si la motivation n'est plus là, ou voilà, ou si on a mal géré son budget, que même l'argent qui est arrivé dans nos caisses, bah ça suffit pas pour le finir. Moi je me vois pas faire ça, quoi. Je peux pas faire ça.
C'est vrai que c'est un débat, l'early access. Vas-y.
Je vais dire l'autre côté de la médaille. Moi, nous on le fait, mais en petite partie en fait. Puis on va se sauver avec l'argent. Non, en fait, on a fait Kickstarter au départ. J'ai dit « Oh, mais j'étais pas dans l'équipe », mais je trouvais ça intéressant. En fait, effectivement, c'est poche là, quand que le monde part avec les sous puis que finalement, on n'a pas de jeu. Mais en même temps, ça dépend aussi. Des fois, ça aide aussi vraiment les équipes à démarrer. T'sais, on a tous nos moyens comme les autres. Il y en a qui font juste pas verser de salaire. C'est vraiment, on va se le dire, là, c'est une question d'argent. Là. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que je me disais, dans le fond, les gens qui sont vraiment intéressés, soit, mettons, des amis de la famille, le monde qui ont pitié de nous, ils vont vraiment pouvoir nous encourager avec ça. Puis les gars ont quand même fait une bonne base de sous avec ça. Puis ils ont sorti un petit peu du contenu par après. Ils ont sorti des petites teases. Puis c'est devenu une petite fanbase qui est quand même intéressante. Puis ben, ces gens-là, ils ont hâte que le jeu commence, même si ça fait comme une couple d'années que le Kickstarter a été fait. Fait qu'ils ne perdent pas espoir. Puis nous non plus, on se dit, ben, tu sais, dans le fond, on a quelque chose à leur donner en échange. Puis ça donne comme une espèce de sucre à la corde là, qui est quand même intéressant. Donc. Moi, je trouve ça bien.
Moi, c'est pas que je trouve pas ça bien, mais par contre, je suis d'accord avec toi que c'est une super plateforme pour développer une communauté autour d'un jeu.
C'est de plus en plus utilisé comme ça, effectivement, comme, non pas pour financer totalement un jeu, mais plutôt pour fédérer une première communauté, voir si justement il y a une communauté qui se monte dessus et rassurer les autres parties prenantes du financement, parce que souvent un jeu est financé par plusieurs intervenants, dont les éditeurs notamment, par exemple, ou d'autres organismes, qui peuvent être rassurés par le fait que le jeu est obtenu... quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros sur Kickstarter. Donc le micro doit être par là-bas. Voilà.
Bonjour, je reviens juste sur la question qui a été posée en premier lieu. Je suis désolé, le débat a bien avancé depuis. On parlait du ratio de jeux avortés par rapport aux jeux aboutis. Par contre, ça ne reflète pas tout à fait le temps de travail pour chaque projet qui a été avorté. Le ratio temps de travail abouti et avorté, ce serait quoi pour vous?
Voilà, ça me paraît très compliqué de répondre parce que j'ai déjà vu des projets qui avaient 2-3 ans et des équipes de 40, 50 ou 100 personnes se faire killer d'un coup. Donc je ne sais pas s'il y a moyen. Déjà que c'est difficile d'avoir le ratio de nombre de prods. Alors là, le temps de travail, mais certainement énormément. Enfin, chiffre image, j'imagine que les projets dont tu parles, c'est des.
Exact, c'est à ça que ça ressemble. C'est des années de travail, des grosses équipes. Nous, enfin, on était proche de 400, puis une grosse partie de l'équipe, mettons, une quarantaine de gens peuvent travailler pendant 2-3 ans, puis après ça, c'est canné. Ça dépend.
Voilà, donc effectivement, c'est bien de penser à ces millions d'heures de travail qui disparaissent chaque jour dans l'industrie du jeu vidéo.
Sauvez-les.
Alors après, c'est pas, enfin, quand t'es salarié dans une société, dans une grosse société, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps parce que quand tu travailles dans ce genre de société-là, t'as vraiment envie de sortir un jeu en fait et d'avoir quelque chose sur ton CV. Sinon, t'avances pas dans ta carrière tout simplement. Mais quand tu travailles à ton compte, c'est pas forcément un échec d'arrêter un jeu en fait. Et même un jeu qui est un échec n'est pas forcément un échec pour toi. Financièrement, oui, probablement. Mais t'apprends à chaque fois que tu crées. Donc voilà, c'est pas des heures totalement perdues. Voilà.
Bah, moi, par exemple, le premier jeu que j'ai créé, premier jeu commercial, c'était un jeu de plateforme procédurale sur mobile. En fait, j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire pour faire un jeu sur mobile. Et ça m'a pris 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai gagné, 7000 euros. 2 ans de ma vie, en fait. Si j'avais été un vrai pro, j'aurais killé le jeu genre au bout de 6 mois. Mais le fait d'avoir été jusqu'au bout du projet, d'avoir appris toutes les ficelles du métier, de la conception jusqu'à la mise en vente, le marketing et tout ça, même si c'était un total fail, je me suis dit, m'embête cette mouche. Je me suis dit, je pouvais pas. Enfin, j'avais envie de continuer vraiment le jeu vidéo, même si c'était super dur cette expérience. J'ai tellement appris, c'était tellement intéressant créativement que je me suis quand même accroché, quoi.
Oui, et donc les millions d'heures qui disparaissent de travail ne sont pas complètement perdues. C'est évidemment l'expérience de toute l'industrie qui en bénéficie quand même.
Ouais, et là, tu as dit un truc intéressant, c'est que quand tu vois que tu vas aller vers le mur, enfin, que tu vois que tu vas te cracher contre le mur, c'est ton premier jeu, des fois, ça peut être bien d'aller vraiment jusqu'au bout parce que justement, tu vas apprendre de toutes les phases de création du jeu. Parce que là, on voit, par exemple, si on va que jusqu'à la bêta, on ne saura pas ce que ça fait de vraiment faire le polish du jeu, les finitions, et de sortir un jeu. C'est des étapes vraiment complètement différentes de tout ce qu'il y a eu avant dans la création d'un projet.
Mais voilà, enfin, je dirais pour quelqu'un qui commence, aller au bout de son premier jeu, c'est vraiment la vraie première étape pour ensuite continuer. Parce que si on finit pas le jeu, si on finit pas son premier jeu, on finira sûrement jamais. Mais par contre, passez pas 2 ans dessus, quoi.
Oui, ça c'est un conseil effectivement que j'ai donné tout à l'heure à une étudiante en terminale qui cherchait à travailler dans le jeu vidéo. Effectivement, l'idée c'est faire des jeux, tout le monde peut en faire. Donc, si vous voulez faire des jeux, faites des jeux. Trouvez quelles sont vos compétences et puis trouvez celles qui vous manquent et chez d'autres personnes et faites des jeux tout de suite. Mais surtout, effectivement, ne vous lancez pas sur des projets du prochain MMO parce que ça a peu de chances d'aboutir. Par contre, si vous faites des petits projets, vous allez pouvoir les mener de bout en bout et justement acquérir l'expérience de toutes les phases de production et pouvoir recommencer rapidement puisque le premier projet sera forcément moins bien que le suivant et ainsi de suite.
Bonjour, moi j'avais une question par rapport au tout début de la création d'un jeu vidéo. Quel est l'élément déclencheur ? Est-ce que pour vous c'est une idée de gameplay, une idée de narration ou une illustration peut-être ? Je pense à Rayman, quand il a été dessiné pour la première fois, ils se sont peut-être dit on va faire un jeu autour de Rayman parce que le personnage nous plaît. Pour vous, dans vos jeux, ça a été quoi l'élément déclencheur qui vous a dit je fais un jeu vidéo ? Et après, si possible, il passe la phase prototypage et vous dites « Ah, ça va être un bon jeu vidéo, de préférence. » Mais vous, c'est quoi l'élément déclencheur quand vous créez vos jeux vidéo ? Est-ce que c'est les trois ? Je ne sais pas.
Personnellement, le visuel. Donc, dans le fond, vu que c'est ma branche, je mentirais de dire que c'est le gameplay. Mais en fait, juste pour donner une idée, nous, ce qu'on a fait chez Bishop, que je trouve intéressant, c'est que pour trouver la prochaine idée de jeu, ce qu'on a fait, on s'est regroupé dans un chalet, enfermé, les fenêtres fermées, puis on a dit « OK, on crée notre jeu ». Ça a été vraiment intense, mais ça a comme permis de faire une certaine ébauche. Puis moi, je suis très visuelle, puis je comprenais vraiment pas ce qu'ils voulaient s'en aller avec ça. Je me disais, OK, ça va être compliqué. Puis finalement, juste d'avoir fait comme plus de recherches, d'avoir fait des concepteurs, des illustrations, OK, là, ça me le tente. T'sais, là, j'y vais avec ça. Donc, personnellement, moi, c'est les illustrations, mais je pense que c'est simplement parce que c'est mon corps de métier. Là. Si j'apprenais les autres corps de métier parfaitement, j'aurais d'autres choses à dire. Mais moi, le visuel me parle beaucoup. Quand je vois, mettons, une nouvelle pièce, un concept qui sort pour un nouveau jeu ou pour un film, peu importe, là, je vais vraiment accrocher ou pas. Donc, ça dépend.
D'accord.
Alors moi, en fait, vraiment, l'embryon de la conception, ça part souvent de créer une expérience pour le joueur. Bon, c'est pas forcément un gameplay, c'est pas forcément un jeu vidéo, c'est pas forcément une histoire, c'est simplement... qu'est-ce que je veux faire vivre aux joueurs. Donc, par exemple, pour Outzer, le concept de base c'était la solitude, l'espace et la mélancolie. Bon, ok, ça n'a pas l'air fun comme ça, mais du coup moi je travaille aussi avec Fibretic, qui est co-créateur sur tous mes jeux, qui lui est plus narration et game design. Moi, je suis plus expérience utilisateur et visuel. Et donc moi je lui apporte des concepts de base et après lui il va apporter donc un scénario, il va essayer de mettre des mécaniques de gameplay pour communiquer l'expérience qu'on veut faire. Donc c'est complètement différent. En fait c'est pour ça moi ce qui me plaît bien c'est comment il s'appelle le créateur de Pokémon, toi qui aimes les trucs japonais.
Je sais pas. travaille. Je sais pas parce que j'aime pas Pokémon.
Ben voilà, j'avais lu un peu comment il avait conçu Pokémon. Et en fait, c'est simplement quand il était petit, il collectionnait les insectes qu'il trouvait dans la forêt. C'était un peu le geek du coin. Il faisait cette collection d'insectes, il les faisait se battre entre eux. Et en fait, des années plus tard, ça a été simplement l'idée de Pokémon. Et donc, trouver inspiration dans son enfance, dans sa vie, même dans ses opinions personnelles et tout ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est le mieux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des jeux vraiment différents.
Ouais, nous, c'est au tout début, on voulait faire Seasons, et c'était vraiment une envie personnelle de faire un jeu poétique avec un renard, tout ça, et des saisons. Et puis après, ça s'est complètement cassé la figure, et on devait des sous à l'État et tout ça. Alors du coup, la motivation du premier jeu commercial qu'on a vraiment sorti, c'était de pouvoir continuer, simplement, et de le sortir vite. Mais en vrai, on l'a fait aussi parce qu'on pouvait le faire, c'est-à-dire qu'on arrivait à voir qu'à deux on pouvait faire un jeu, et donc c'était ça aussi la motivation. Mais après, on a fait notre deuxième jeu qui était une suite de celui-là, et là la motivation c'était très clairement de retrouver nos personnages, de dire autre chose que ce qu'on avait en termes d'histoire, hein, je veux dire, de ce qu'on avait fait avec nos personnages dans le premier, et de mettre plus en avant un des personnages précisément. Donc ça, c'était vraiment très agréable de retrouver nos personnages et de développer notre univers. Mais ce qu'on voulait vraiment dire, ce qu'on voulait vraiment faire avec le jeu, c'est améliorer la formule du jeu. Et ça, c'est purement du game design. On se dit, bon voilà, le premier jeu, il était bien, mais pas parfait.
Tu peux les mentionner si les gens les connaissent pas. Le premier, c'était
Blocks That Matter. Et le deuxième, c'était Tetrobot & Co. Et ensuite, quand on est revenu sur Seasons, et même au cours du développement, ma motivation a complètement changé. Je me suis rendu compte que le jeu que je voulais faire en 2009, c'était plus du tout le jeu que je voulais faire en 2015-2016. Et donc, ma motivation, elle a basculé. Et ce qui était le plus important pour moi, c'était que le jeu soit lent et qu'on prenne du plaisir à explorer, on va dire. C'était plus une histoire de renards et d'animaux et tout ça. Enfin, je m'en fichais. Au début, c'était complètement écolo le jeu, et c'est devenu beaucoup plus, grâce à la maturation du projet, c'est devenu plus psychologique et plus social. Donc voilà, c'était plus le message du jeu qui m'intéressait à la fin.
D'autres questions? Plein.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis pas vraiment de la génération des jeux vidéo. Malheureusement, mais j'écris et j'ai une association de films, et je voulais savoir au niveau des scénarios, puisque pour le coup il y a pas mal d'amis qui ont des enfants, donc j'ai regardé beaucoup de jeux vidéo, et moi je suis passée de Super Mario Bros qui bondit où je perds à chaque fois, à des jeux qui sont très très pointus au niveau du scénario et qui s'approchent du film. Et je voulais savoir, maintenant que je suis devenue scénariste, s'il y avait des possibilités de vous faire lire nos textes ou pas, si nous qui sommes plus dans la littérature et qui savons que le jeu vidéo est très accessible à une majorité de gens maintenant. Et il y a tout un monde, il y a des jeux, on m'a montré tout le monde des jeux vidéo maintenant. J'ai des amis qui passent leur nuit dans des jeux vidéo. Donc je me dis, ce serait dommage de ne pas pouvoir connecter le monde du cinéma au monde du jeu vidéo, au monde de la littérature, parce que tout le monde est un peu dans son cloisonnement. Et comment faire, comment vous joindre, parce que c'est Marc Caro, le réalisateur de science-fiction, qui m'a dit, ton roman n'est, à mon avis, pas pour le cinéma, mais pour le jeu vidéo. Et je me suis retrouvée très imbécile, parce que je pensais à Super Mario Bros. Et ouais, j'étais très déphasée. Voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de jeux, et donc qui intègrent de manière différente la partie scénaristique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu effectivement est quand même un objet transdisciplinaire, avec des gens qui écrivent, des gens qui dessinent, des gens qui scénarisent, des gens qui développent, etc. Par contre, pour moi, il y a deux façons de rentrer, mais je vais essayer après les invités à répondre, mais il y a deux façons de rentrer quand on est scénariste dans l'univers du jeu vidéo. La première, c'est de trouver un jeu vidéo qui a besoin d'un scénariste. Alors ça s'est pas mal produit récemment avec les jeux notamment de Dontnod. Ils ont travaillé avec pas mal de gens qui écrivaient pour produire leurs jeux.
Nous aussi, des envies de personnages, mais on savait pas comment créer le lien.
Donc soit trouver des jeux qui ont besoin de scénaristes, et si vous avez votre idée de jeu, de scénario, là pour le coup c'est plutôt à vous de trouver une équipe et de produire un jeu avec, à mon avis. Parce que le problème, c'est que les gens qui font des jeux vidéo ont tendance à vouloir produire leurs jeux vidéo. D'autres expériences dans le domaine ?
Bah, moi, en fait, moi, je travaille avec, avec un écrivain maudit en fibre optique. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours écrit et à cause de la pression de sa famille, il est devenu ingénieur en bâtiment. Et à un moment donné, il a tout plaqué, mais il a toujours écrit. Et en fait, il est venu dans le jeu vidéo parce que aucun éditeur n'a jamais voulu l'éditer. Et comment dire ? Et c'est dommage parce que finalement, on a travaillé ensemble et on a fait ce jeu à Outzer qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et lui, il est content parce qu'il n'aurait jamais vendu 500 000 livres avec un éditeur français. À part si, bref. Mais après, je suis pas d'accord que ce soit vraiment cloisonné parce que par exemple, si on regarde les grosses productions, les gros jeux vidéo AAA, quand on voit les cinématiques, on voit très bien que c'est des gens qui viennent du cinéma, qui font de la mise en scène, qui écrivent les dialogues, je trouve que justement ça se rejoint beaucoup le cinéma et le jeu vidéo, même la littérature, parce que nous on fait aussi beaucoup de jeux textuels, des fictions interactives, ce genre de choses. Je trouve que il y a de plus en plus de gens qui sont en dehors du jeu vidéo, qui vont vers le jeu vidéo, puisqu'il y a énormément de choses à faire, de choses à inventer, d'innovations, et qui ouvrent aussi de nouveaux champs, rien que dans l'écriture, écrire un scénario d'un jeu, ça n'a rien à voir avec écrire le scénario d'un film, puisqu'il peut y avoir des ramifications, etc. Et donc, je trouve que c'est un nouveau terrain de jeu pour les gens qui viennent en dehors du jeu vidéo.
Il ne faut pas hésiter à venir jouer avec l'industrie du jeu.
Mais c'est vrai que c'est pas la même façon d'écrire, quoi. C'est-à-dire qu'un même s'il y a des jeux qui commencent à ressembler au cinéma, souvent c'est pas forcément les jeux les plus intéressants. Et d'ailleurs, je l'ai vu en faisant un jeu très narratif et finalement le gameplay a été un peu mis de côté. Donc et ça donne pas un jeu excellent. Faut bien se dire que quand on va devenir scénariste pour le jeu vidéo, ça va être une façon d'écrire un peu différente et il va falloir penser à ce que le joueur va vouloir faire. C'est presque plus simple de se dire on a un contexte et puis comment est-ce qu'on va amener le joueur à évoluer dans ce contexte là. Par contre c'est toujours intéressant de lire des belles histoires, donc je pense que tout développeur sera intéressé.
Oui, voilà. Pour répondre à la question de contacter. Voilà, comment contacter les gens, en général les studios ont leur site internet et répondent aux sollicitations sans problème.
Bonjour à tous, moi j'avais une petite question, c'était comment est-ce que vous voyez la place du son et de la musique, tout ce qui est sound design et musique, dans vos jeux vidéo? Est-ce que quand vous concevez un jeu vidéo, vous vous dites je le vois avec une musique, je le vois avec telle musique ou avec tel effet sonore, ou est-ce que par exemple certains jeux, je pense à Limbo notamment, est-ce que vous voyez directement que ce jeu-là, je vais le faire sans musique, avec un son très minimaliste? Je suis intéressé juste de savoir comment vous voyez la place du son dans le jeu vidéo et de la musique aussi, notamment, qui a une place, je pense, essentielle, quoi.
Personnellement, moi, je vois ça à 110%. Là. Je trouve ça intéressant. Parce que moi, de mon côté, j'ai toujours présenté, mettons, des illustrations. Drabe. Je veux dire, il n'y a pas de son, il n'y a pas rien qui vient l'envelopper, tandis que si, mettons, on voit un film du cinéma d'animation, c'est ce qui fait que ça vient vraiment faire un produit fini. C'est le complément de toutes ces choses-là ensemble. Donc, moi, je dirais que dans un jeu vidéo, le son, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'emballe vraiment beaucoup. Puis, je suis arrivée sur le tard, sur la production, ça, c'était déjà enclenché, donc j'ai pas eu vraiment embarqué là-dessus. Mais, personnellement, moi, regarder un jeu avec... Pas de son, ça perd beaucoup. Là, ça tombe à peut-être 50% de sa crédibilité, tandis que sinon, t'es vraiment plus immergé. Puis,
Chez Bishop, là, ça marche comment? Vous avez son designer et compositeur en interne ou c'est des gens qui sont externes?
Non, en fait, on a fait affaire avec des gens à l'extérieur, vraiment à contrat pour ça. On n'était pas équipés en termes d'artistes autour pour pouvoir travailler à temps plein là-dessus, sauf qu'on est allé chercher des studios qui eux étaient spécialisés. Donc, on a vraiment envoyé, mettons, notre prototype pour dire, ça nous prendrait quelque chose là-dessus. Là, ils nous envoyaient des démos beaucoup, puis ça accrochait moins. Parce que, tu sais, dans le fond, les gens qui font le son, ils connaissent pas vraiment le jeu au complet, en fait. Puis tandis que nous, on l'a développé, on le connaît comme il faut. Donc, c'est vraiment de pouvoir s'asseoir puis en discuter, vraiment pour échanger là-dessus. Puis, avec le temps, on a trouvé quelque chose qui nous convenait, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail à se parler.
Michael, sur le son dans tes jeux? Alors, les jeux mobiles, c'est un peu particulier, j'imagine, aussi au niveau du.
Non, pas forcément. Par exemple, sur sur Out There. Donc, comment dire, visuellement, en termes d'interface, etc., c'était très très minimaliste. Même s'il y avait quand même, comment dire, on essaie de mettre une ambiance assez sombre, etc., mais on avait très peu de moyens. Et on a travaillé avec un super musicien qui vient du cinéma justement. La première fois qu'il m'a envoyé une track du jeu, je l'ai écouté et je me suis dit, mais mon jeu mérite pas une musique comme ça, parce que c'était vraiment, déjà quelque chose de que j'avais jamais entendu et qui allait parfaitement avec l'ambiance que je voulais. Et comment dire? Et si on n'avait pas eu cette musique qui apporte vraiment un souffle épique et un souffle mystérieux au jeu, je pense que ça aurait, le jeu aurait eu beaucoup moins d'impact. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que 25% des gens qui achètent Out There sur PC, ils achètent aussi la bande-son. Comme quoi, c'est vachement important. Quoi.
Oui, ce qui se fait de plus en plus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que sur les plateformes de téléchargement des jeux, maintenant, les bandes-son sont aussi mises en vente. Et donc William, là, sur la musique,
c'est vrai que les compositions, les bandes originales sont maintenant, pour les jeux, sont hyper évoluées, on va dire. Enfin, ça l'était déjà avant, mais on va dire que personne ne voulait acheter des bip-bip, voilà. Mais
si, on en a quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis nous, on en met aussi dans nos jeux, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que maintenant, il y a tellement de foisonnement de bandes originales et même des compositeurs très connus dans le jeu vidéo maintenant. Donc c'est sûr que ça... Bon, nous, on s'appelle Swing Swing Submarine, donc la musique, c'est très important pour nous, c'est une évidence. Et on a eu la chance de travailler avec toujours la même personne. On a trouvé un compositeur, et ensuite, ce compositeur a toujours eu carte blanche sur nos jeux. On donnait quand même des intentions, c'est-à-dire que moi je disais toujours je pense qu'il faudrait un peu ceci, un peu cela, mais après par contre je lui donnais complètement, comme je lui faisais confiance, je lui donnais complètement carte blanche. Le sound design est un peu moins reconnu, c'est tout le travail d'ambiance justement, d'atmosphère. Pour Seasons After Fall justement, on voulait pas qu'il y ait beaucoup de musique, on voulait qu'il y en ait de temps en temps. Un peu comme dans Tomb Raider, on voulait qu'il y ait des musiques au moment important et que quand il n'y en a pas, ce soit que des ambiances de nature et d'entendre les pas du renard dans la forêt, tout ça. Donc oui, évidemment, pour nous c'est important. Je pense que ça l'est de plus en plus parce qu'un jeu, comme tu le dis Michael, ça peut complètement changer sa bande originale ou son sound design peut complètement changer la j'arrive pas à trouver mon
la perception
mot.
Qu'en ont les gens.
La perception, merci. j'étais là, ça commence par père, mais c'est pas persuasion, c'est pas ça, c'est pas possible. La perception qu'on a, ouais. J'avais l'exemple d'un jeu qui s'appelle Don't Look Back, et qui est un petit jeu en pixel, un jeu flash, mais le sound design est très réaliste. Donc même un petit pixel qui tombe sur le sol et qui fait 3 pixels en arrivant, grâce au son, on arrive à voir que c'est la pluie et c'est magique quand ça arrive. Quand le son change complètement le jeu.
Ouais, il y a un énorme pouvoir de suggestion aussi par le sound design. C'est vrai que voilà, comme tu dis, ils peuvent, avec des trucs complètement minimalistes, si on ajoute des sons qui vont vraiment bien, on peut comment dire, l'imagination du joueur va aller beaucoup plus loin que ce qu'on lui montre.
Tu mets des oiseaux, t'es pas obligé de faire les oiseaux dans le jeu en fait. Oui, t'as l'impression qu'ils sont dans les arbres quelque part, mais ils sont pas là.
Oui, le son, donc, au même titre que l'image, participe grandement à l'expérience du joueur.
Avec l'arrivée de tout ce qui va être les nouvelles technologies, le binaural, la VR, le jeu va peut-être, est-ce qu'il va se relancer encore plus et s'axer encore plus sur le son? J'avais pensé à un jeu vidéo, enfin, c'était Novasu qui avait sorti ça, il me semble, sur un chevalier qui est aveugle.
A Blind Legend.
Je sais pas, quand on joue aux dernières grosses productions, moi je trouve que le son dans les jeux vidéo, il a toujours été beaucoup plus en avance que le graphisme, le scénario et tout ça, parce que simplement en termes de hardware, t'as besoin de beaucoup moins de choses pour faire des choses spectaculaires. Mais ça évolue toujours et c'est ça qui est fou. Par exemple, il y a un jeu comme Rainbow Six Siege, je trouve que le sound design est vraiment dingue puisqu'ils arrivent à nous faire entendre les sons quand ils sont au-dessus de nous ou en dessous de nous. Et que en fait ça évolue tout le temps, donc voilà. Après nous on fait des jeux un peu lofi, on va pas tout ce qui est son spatial et tout ça, on n'est pas trop dedans quoi. En tout cas, moi,
je suis pas sûr que ça révolutionne, mais le son a toujours fait une grande part du jeu. Et c'est vrai que ce que tu dis, Michael, est très intéressant. Moi, un des jeux que j'adorais quand j'étais plus jeune et auquel je rejoue régulièrement, System Shock 2, c'est un jeu aujourd'hui, visuellement, si vous prenez la version d'époque, ça date d'il y a trop longtemps. Mais la bande son, elle n'a pas vieilli. Enfin, voilà, on peut encore jouer au jeu grâce à sa bande son. D'autres questions ? Oui, il y en a plein partout. Il y a le micro quelque part ?
Oui, si je peux poser ma question. Je suis là, je suis au fond. Là-bas. Bonjour, je voulais juste avoir votre avis sur la construction participative, puisque récemment j'ai eu l'occasion d'aider un petit peu Amplitude dans son développement de Endless Space 2, où ils ont fait beaucoup appel à leur communauté pour en fait créer les différentes races, les univers, les planètes, etc. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette idée d'entre guillemets sous-traiter certains aspects de votre jeu à la communauté.
Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté Mechanical Turk, on fait travailler les gens à leur insu quelque part. Et Amplitude, d'ailleurs, il y aura une conférence sur la série des Endless dimanche, il me semble. Et donc peut-être que ce sera l'occasion d'en discuter directement avec Amplitude, mais vous, sur le côté participatif, c'est-à-dire souvent ce qui s'affronte du coup dans la conception de jeu, c'est le côté auteur. On a une idée, on a un studio, on a envie de produire notre jeu, et effectivement l'approche d'Amplitude qui est assez radicalement différente, qui est de dire c'est le jeu des joueurs et on va les faire intervenir assez tôt dans la production pour qu'ils puissent en partie façonner le jeu selon leur désir.
Je ne connais malheureusement pas cet aspect-là. En fait, moi, je suis arrivée sur le projet qui était tel quel. Puis chez Fruma, c'était vraiment déjà toujours des jeux qui étaient déjà montés. J'ai plus un genre de fourmi là, qui participe à la chaîne de production. Mais je ne connais pas, en fait, ce facette-là du tout. Mais...
Ouais, enfin, je pense que le mieux, c'est d'aller voir la conférence, justement, d'Amplitude. Parce que c'est peut-être un des seuls studios en France qui fait ce genre de choses. Et moi, ça me ferait très peur. C'est un peu comme le financement participatif, en fait. Tout ce qui est participatif, on n'arrive déjà tellement pas à se mettre d'accord au sein d'une équipe. Alors si en plus, il faut que des gens attendent de nous qu'on réponde, c'est compliqué. C'est trop dur.
Alors, nous, on va expérimenter ça avec notre prochain jeu Sigma Theory. Le but, voilà, c'est un peu aussi ce que tu fais, de fonder une communauté autour d'un projet. Mais on n'ira pas faire sous-traiter, comme tu dis. Je trouve ça un peu. Je pense que c'est intéressant de faire intervenir les joueurs dans la conception, mais aussi c'est à double tranchant parce qu'une communauté, c'est difficile à créer et aussi après c'est difficile à gérer parce que on sait que dans toute communauté il y a toujours des débordements, il y a des gens qui sont toxiques. Et c'est vrai que moi même si on va essayer de le faire, ça me fait quand même un peu peur de ce côté là mais après avoir des gens qui sont passionnés par ton jeu et qui vont te dire ouais mais s'il y avait ça ce serait encore plus marrant, je suis sûr que ça peut être très enrichissant et c'est pour ça qu'on va essayer quoi.
Et du coup vous allez faire travailler les gens sur quel aspect du jeu, c'est-à-dire sur la partie narration ou du gameplay ou...
Je pense pas qu'on aille au niveau d'Amplitude qui carrément fait sous-traiter. Nous c'est plutôt une early access on va dire, avec on va faire tester différentes versions, avoir les retours et essayer d'aller vers le jeu que tout le monde voudrait quoi. Voilà. D'essayer de, tout en gardant notre direction sur le jeu. C'est vrai, ce que tu disais par rapport aux développeurs de jeux vidéo, c'est un peu des auteurs aussi, et ça peut leur faire très mal de devoir changer des choses. Moi, c'est le problème que j'ai avec Fibrotic, qui lui est un vrai auteur, et j'ai toujours beaucoup de mal à le... Comment dire, écoute, ça, on va pas le garder, on va le mettre à la poubelle, désolé. Et c'est toujours difficile, mais je pense que c'est un mal nécessaire dans un jeu vidéo, parce que on est toujours dans l'itération et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on va commencer par faire plein de premiers jets un peu dégueulasses dans tous les sens et en fait on va revenir dessus plusieurs fois jusqu'à avoir le jeu terminé quoi.
Donc. Alors c'est vrai que c'est intéressant, c'est de effectivement Amplitude a élevé ça à un niveau assez peu commun, le fait de faire participer les joueurs, mais quelque part les jeux vidéo sont
à la base des œuvres collectives et donc sont quand même issues d'une participation de diverses personnes, de divers égos, de diverses visions. Et donc le jeu est intrinsèquement de toute façon quelque chose de collectif. Après, et les early access, donc l'accès anticipé sur les plateformes de jeu, participe aussi de cette démarche-là qui consiste à faire tester le jeu avant qu'il ne soit terminé, de manière à ce que les retours des joueurs puissent éventuellement influencer le jeu. Encore une fois, pas forcément au point que le met en place Amplitude. D'autres questions ? Oui, il y en a.
Bonjour, je suis tout derrière. En fait, ma question concerne, on parlait tout à l'heure du financement et du rendement. Moi, je voulais savoir comment se rémunère un studio, surtout sur les free-to-play, parce que comme c'est quelque chose de gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de recettes derrière. Donc comment ça se finance ? Et une autre question aussi concernant un petit peu tout ce qui est RPG, où on sent que les personnages aujourd'hui, ils sont beaucoup bridés, on reste beaucoup sur notre faim, on attend peut-être des fois des choses un peu plus extraordinaires, et quand on finit une histoire, on a fini le jeu, bah, au fait on se dit, ouais, on est un peu bridé, c'est dommage qu'ils n'ont pas été plus loin sur... Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez.
Alors, bridé sur quoi, si je peux me permettre ?
Plus par exemple sur... je vois Final Fantasy, moi quand je l'ai fini le 15, j'ai été très déçu parce que je m'attendais à vraiment, quand on voit la démo, quand on voit les possibilités, à quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai fini l'histoire, je me dis, ouais, je reste sur ma faim parce que le perso a plein de techniques, plein de choses comme ça. Bon, il faut recommencer le jeu. Moi, je dis pourquoi pas aller plus loin dans l'histoire et puis...
Donc plutôt sur l'arc narratif des personnages. Quoi.
Voilà, l'arc narratif et puis aussi les techniques aussi. C'est-à-dire que le personnage, il va évoluer. Mais quand on voit des stades d'évolution, après, ça stagne un peu. Et du coup, on reste sur ce côté-là en se disant c'est dommage qu'ils n'ont pas été plus loin aussi sur ce niveau-là.
Donc les joueurs ont aussi une appétence pour les jeux à développement infini où il faudrait en permanence pousser le jeu. Et sur la première partie, donc sur effectivement... Sur la rémunération pour les free-to-play, c'est une question de masse en fait et de quantité. Le free-to-play, effectivement, c'est un modèle très particulier où on sait que ne vont payer qu'un faible pourcentage des joueurs. Genre un très faible, c'est quoi ? C'est entre 1 et 5%, un truc comme ça ?
Si c'est pas moins, oui.
Voilà, et donc il faut juste avoir énormément de joueurs pour que les 1 et 5% qui payent quelque chose fassent vivre le studio. Mais c'est vraiment un modèle très très particulier qui nécessite notamment au niveau du marketing des investissements importants pour avoir une masse critique de joueurs suffisante. Et du coup, c'est un peu quitte ou double, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que ça rentre derrière, quoi.
Oui, il y a un free-to-play français là, qui a bien fonctionné ces derniers temps, mais je ne retrouverai pas le nom et puis c'est pas très important. Mais je sais que ça a fonctionné à la fois parce que le jeu était ce qu'il était, c'est-à-dire un jeu hyper simple que tout le monde peut comprendre en deux secondes. Il y avait certes, on peut se dire comme ça qu'ils vont gagner avec les pubs qui apparaissent entre chaque niveau, ça c'est la base. Mais en vrai, c'est pas vraiment comme ça, que ça se passe. Ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ces pubs-là parce qu'il y a beaucoup d'installations. Il y a beaucoup d'installations non pas parce que le jeu il est bon, mais parce qu'il y a eu 2 millions en marketing avant pour faire en sorte que des gens installent cette application et que ça devienne complètement viral, quoi.
En fait, c'est ça, c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait. C'est que nous, les gens achètent nos jeux, mais en free-to-play, les développeurs achètent les joueurs. C'est-à-dire qu'ils payent pour chaque installation du jeu en espérant que le jeu rapporte plus d'argent qu'ils l'ont payé pour l'installer chez quelqu'un.
On a 2 minutes pour une dernière question. J'ai vu qu'il y avait plein de questions par là.
Il y en a plein partout. Alors, en fait.
Bonjour. C'est pour revenir en fait sur les divergences de point de vue entre les joueurs et les développeurs. Aujourd'hui, avec la génération YouTube, on est tous experts ou critiques sur des forums. Et on entend des absurdités complètement dingues. On entend parler de développeurs soit flemmards, soit incompétents, de moteurs de jeu qui sont mauvais. Alors que ça, c'est une absurdité. Un moteur de jeu, c'est des choix et des conséquences budgétaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, comment vous réagissez à ça, comment vous voyez ça sur Internet ? Alors, vous n'êtes plus développeur de AAA, vous êtes plutôt maintenant dans l'indé. Est-ce que vous êtes quand même confronté à des petites communautés de fans et comment vous réagissez à ça ? Comment est-ce que vous pouvez combattre cette toxicité en fait dans les communautés et en général ?
Alors là, pour le coup, c'est une question qui va demander à peu près 2 heures. Mais
excusez-moi.
Deux informations. La première, c'est que les gens des studios sont aussi présents sur l'espace jeux vidéo. Si vous voulez poursuivre la discussion ou poser vos questions, n'hésitez surtout pas à passer nous voir. Et donc peut-être une réaction effectivement sur ce côté. Comment on fait avec les retours des joueurs, sachant que dans le jeu vidéo a l'air de se prêter plus à ce type de retour que ne le sont les autres œuvres, le cinéma ou la littérature. C'est vrai qu'on demande rarement aux cinéastes ou aux écrivains de refaire leur scénario ou leur livre.
Comment vous gérez ça?
Les retours qu'on a eus souvent, c'est « Ah, le jeu, il n'est pas sur la Switch, vous n'aimez pas les joueurs de Nintendo. » Alors, c'est, bon, je pense savoir l'âge de cette personne, mais... enfin, j'espère savoir l'âge de cette personne. Mais ouais, c'est souvent des... Bah, c'est des choses qu'on dit sans réfléchir, quoi, tout simplement. Aussi, l'histoire des développeurs flemmards, ça me fait toujours rire, mais...
Faut demander à leurs parents.
Ouais.
Et à la société, c'est vrai que les conférences comme ça, c'est aussi pour montrer à tout le monde ce qu'il y a derrière le jeu vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est un produit de divertissement et on ne se rend pas forcément compte du travail que ça implique et des complications de production.
Ça résume tout. C'est que moi, je vois pas mal aussi de gens qui sont étudiants en jeu vidéo et qui sont allés là-dedans parce qu'ils adorent jouer à la PlayStation à la maison. Et en fait, ils se retrouvent dans des études de jeux vidéo et ils voient la réalité en face, c'est qu'en fait, c'est très, très compliqué, très, très difficile. Oui, OK, il y a la technique à apprendre, mais après, c'est tout simplement la gestion de projet, essayer de mener le projet à terme. C'est très difficile, c'est très compliqué, il y a énormément d'embûches à chaque fois. Et c'est, voilà, c'est vraiment... c'est ça, finalement, que les gens ne comprennent pas, comme tu as si bien dit, quoi.
Ouais, c'est une bonne conclusion, effectivement. Les jeux vidéo, ça prend du temps, mais surtout, jouer, c'est pas du tout pareil que de créer un jeu. Et c'est peut-être ça le gap de compréhension qu'il peut y avoir. Mais on espère que ça va avancer. En une seconde.
Est-ce que les développeurs ont conscience de leur responsabilité dans le fait que certains jeux banalisent la violence et sont quelquefois de véritables simulateurs de meurtre ?
Alors, effectivement, là, pour le coup, on a fait une conférence là-dessus l'année dernière qui s'appelait « Peut-on jouer de tout ?» qui était exactement sur cette thématique. Je vous encourage à les réécouter puisqu'elle est en ligne sur le site des Éthiopiales. Et sur le principe, alors on va peut-être pas avoir le temps d'y répondre, mais je pense que tous ici, on est plutôt militants des jeux qui ont du sens, où les gens ont la responsabilité de ce qu'ils mettent dans leur jeu, puisqu'évidemment, ce sont des produits culturels qui vont influencer les jeunes générations, comme les jeux auxquels on a joué quand on était jeunes nous ont influencé.
Et les développeurs ont de plus en plus conscience de ça, évidemment. Justement grâce à la jeune génération, mais là par exemple il y a eu une conférence il n'y a pas si longtemps que ça chez Sony pendant la Paris Games Week où de plus en plus de personnes, même qui aiment le jeu vidéo, s'aperçoivent que dans les conférences où on montre vraiment les jeux sur grand écran comme ça, il arrive à un moment donné où on se retrouve à avoir des présentations de 15 minutes environ et à chaque fois on applaudit à la fin. Mais le truc, c'est que dans ces présentations là il y avait par exemple The Last of Us, qui est un jeu avec des zombies, tout ça. Bon, les zombies, c'est pas très grave, voilà. Mais en fait, ce qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est une personne qui se fait casser le bras, et puis une autre qui se fait pendre, et tout ça. Alors, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit de la part des développeurs, mais c'est vrai qu'il y a un petit malaise de temps en temps, où on se dit, donc il y a quelqu'un qui s'est fait casser le bras, c'est en plus de plus en plus photoréaliste, et le logo s'affiche, et tout le monde applaudit dans la salle. Et ça commence à poser un certain malaise. Maintenant, ouais.
Ce sera le mot de la fin.
Tu t'en réponds ou...
Ouais, vraiment une demi-seconde.
Ok. Bon, en fait, par rapport à la violence, moi, ce que je trouve. Enfin, nous, on fait pas de jeux violents. Pour l'instant, on n'a pas sorti de jeux violents. Par contre, après, je sais qu'il y a des jeux qui sont très violents, etc. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, ça traite des thématiques tellement diverses et variées que on ne peut pas dire que les jeux rendent violents. C'est comme si on disait, on regarde un film violent, ça rend violent. Dans le cinéma, on peut se permettre toutes les thématiques, et finalement, le jeu vidéo, on est très vite cloisonné, jeu violent, jeu pas violent. Mais je pense que les joueurs déjà sont devenus beaucoup plus matures. Bref, moi, ce qui me révolte le plus, c'est les free-to-play en fait qui manipulent les enfants dans des mécaniques de jeu qui s'apparentent aux jeux de hasard, aux jeux de casino, pour leur faire dépenser de l'argent de leurs parents. Et en fait, ce marché-là n'est pas du tout régulé.
Et sans doute plus dangereux, effectivement, que le simple fait de mettre de la violence narrative ou figurative dans les jeux, quoi. Merci à tous. Merci à nos invités. N'hésitez pas à venir les voir sur l'espace jeux vidéo.